Bien, je rappelle que nous avons encore deux cours, le 10 et le 17 janvier, donc après les vacances de Noël et de fin de l'année, on reprendra pour le 10 et 17 janvier. Alors pour la fin de cette présentation, je pensais utile, même si c'est un exercice un peu compliqué, de montrer que ces analyses sur des destinations de textes créés par les traductions, les pages de titres, les préliminaires trouvent leur effet lorsqu'on entre dans les textes eux-mêmes. C'était une manière d'ailleurs de montrer que parfois ce type d'approche bibliographique ou historique a pu être considéré comme seulement se situant alentour des textes. Je ne crois pas. Je crois que c'est une manière d'entrer profondément dans les textes. Alors, il y a un exemple particulier que vous trouverez dans toutes les éditions récentes mentionnant comment, à la fois, Hamelot avait manqué le sens du texte et qui, d'autre part, renvoie à la difficulté de la traduction. C'est la maxime 98. Alors, j'en lis la traduction chez Hamelot parce qu'en plus, elle est fondamentale pour l'ensemble du livre. Dissimuler. C'est le titre qu'il a donné. Les passions sont les brèches de l'esprit. La science du plus grand usage est l'art de dissimuler. Celui qui montre son jeu risque de perdre. Que la circonspection combatte contre la curiosité. À ces gens qui épluchent de si près les paroles, couvre ton cœur d'une haie de défiance et de réserve, qu'ils ne connaissent jamais ton goût, de peur qu'ils ne te préviennent, ou par la contradiction, ou par la flatterie. Donc ça, c'est la traduction de 1684 de la maxime ou de l'aphorisme 98. Et on voit immédiatement, lorsqu'on se réfère au texte espagnol, à la fois les difficultés que devait affronter Hamelot et les subtils changements de registre qui sont opérés par la traduction. Parce que le titre, si titre il y a, de la maxime dans le texte de Graciane est « cifrar, chiffrer, la volunta », et ce qui a été traduit comme titre par « dissimuler ». Mais en fait, chiffrer la volonté, l'intention, est masqué, sa volonté, était important dans la mesure où il y a là la métaphore de l'écriture qui est employée systématiquement dans le texte de Graciane. Parce que si vous vous référez, comme je crois on le fait, on doit le faire, lorsqu'on est face à un texte du siècle d'or, pour éviter non seulement les écarts de sens par la traduction, mais même les écarts de sens qui sont produits par l'espagnol d'aujourd'hui par rapport à la langue du siècle d'or, on voit que Covarrubias, le dictionnaire 1611, définit le cifra, le chiffre, comme une écriture énigmatique qui utilise des caractères étrangers ou bien que les nôtres, mais avec des valeurs et des lieux intervertis. Donc, le chiffre, c'est cette écriture secrète, stéganographie, on dira au XVIIe siècle français, qui utilise en soi un code, soit que les caractères de l'alphabet, mais en leur attribuant des valeurs et des places différentes, se donne à la fois comme une écriture cachée, mais que celui qui sait peut déchiffrer. Et donc, du coup, que l'ensemble de cet aphorisme 98 était placé dans ce registre qu'on retrouve dans beaucoup d'autres aphorismes, c'est-à-dire que les comportements sont comme des écritures. Il y a une homologie entre les conduites et l'écrit, soit parce que les comportements sont déchiffrables, comme serait l'écriture ordinaire, soit parce qu'ils sont codés, comme l'est l'écriture en chiffres. Et du coup, que la traduction de Hamelot a perdu cette métaphore qui est la métaphore scripturaire qui régit l'identité entre les différents types d'écriture, ouverte à tous ou réservée à ceux qui connaissent le code et les comportements et conduites qui doivent se régler sur cette seconde définition. Ensuite, la phrase « la science du plus grand usage est l'art de dissimuler ». Elle a avant, les passions sont les brèches de l'esprit. Alors, immédiatement, on est confronté à deux difficultés. La première, c'est que pour Gratiane, le texte sont les passions sont les ouvertures, los portillos del ánimo, donc ánimo traduit par esprit, par un mot de Lausset. Alors qu'évidemment, animo a un double sens. Il peut être le sens, effectivement, de l'esprit, de l'entendement, mais c'est aussi au sens de l'âme. Et ici, là, ce qui est introduit, qui dépasserait peut-être la possibilité de discussion ici, c'est là que la question du rapport entre l'âme et l'esprit dans des conceptions chrétiennes ou cartésiennes de cette relation. Mais que Hamelot ramène à esprit, science, le registre qui est soit celui de l'âme, animo, chez Gratian, et surtout, la phrase suivante, c'est le savoir le plus pratique, el más platico saber, consiste à dissimuler. Et donc, ce que Hamelot traduit comme la science du plus grand usage, comme un corpus finalement de préceptes, de principes, est pensé par Gratian, et on l'a vu la fois dernière, à l'intérieur d'un système de relations, de situations, de communication, la praxis, le savoir à l'état pratique. Et donc passer du savoir pratique à la science est aussi un décalage de signification qui est opéré par la traduction de Gratian. Ensuite, évidemment, on a là ce qui pourrait être commun, le mot « dissimuler » et consister en « dissimular ». Alors, quand on se réfère au dictionnaire, on voit que « dissimulation » dans Covarrubias, c'est faire que quelque chose ne soit pas compris, occulté, et avec, du coup, des sens qui sont progressivement glissants au négatif. L'adverbe « dissimulatamente » signifie de faire quelque chose sans avertir, et le sens le plus négatif, c'est celui de dissimulado, l'adjectif, c'est-à-dire, comme le dit Gratian, celui qui cache ça, mais qui cache quoi? Qui cache sa malice, malicia, qui cache sa méchanceté. Et donc, on a une série de déplacements dans cette brève définition de dissimular, dissimulado et dissimuladamente, qui introduit cette valeur négative qu'on a retrouvée en 1730 chez Courbeville. L'homme de cour dissimule et c'est un vice. Et l'opération ici, indépendante de la traduction, de Gratian puis de Hamelot, c'est de transformer cette définition négative en une conduite légitime. Et une conduite qui est non plus réprouvée ou condamnable, mais qui est légitime et nécessaire. Et c'est là où entre ce que Hamelot a traduit, que la circonspection combatte contre la curiosité. Pourquoi la dissimulation est nécessaire? Parce qu'il y a qu'elle est une défense de la circonspection contre ceux qui veulent démasquer, entrer dans la connaissance de l'autre. Et donc, un combat entre circonspection et curiosité qui, dans le texte original, était donné par compita, sont en compétition la detención del recatado, ce qui veut dire plus ou moins la retenue du prudent. Et elle joue contre quoi, cette retenue du prudent? Contre la attention del advertido, c'est-à-dire contre l'attention de l'avisé. Mais cette attention qui cherche à déchiffrer la raison de la conduite et contre laquelle on doit se défendre en dissimulant par la prudence quelle est sa voluntad, la volonté. Et là, on arrive à cette phrase que vous trouverez citée dans beaucoup des préfaces, des traductions contemporaines, parce qu'elle est en quelque sorte un résumé de la difficulté de l'articulation entre métaphore et littéralité dans Gracian, qui décourage les traducteurs. Bon, c'est la phrase « À ces gens qui épluchent de si près les paroles, couvre ton cœur d'une haie de défiance et de réserve. » Et cette phrase est la traduction de ce que j'ai écrit au tableau, c'est-à-dire « A linces de discurso, rivias de interioridad ». Et évidemment, c'est un peu comme dans le Bourgeois gentilhomme, lorsque Belmaine est traduit par une très longue phrase de Crovielle. Ici, clairement, Amelot de Lahousset a été mis en difficulté par cela. Parce que quel est le sens littéral de cela? Ça veut dire « aux yeux de lynx ». Alors, dans une formule de concision, Gracian supprime les yeux. « Aux lynx des discurso », c'est-à-dire aux yeux de lynx qui veulent pénétrer le discours. Qu'est-ce qu'on peut opposer? Qu'est-ce qu'il faut opposer? Rivias de interioridad. Rivia, c'est la sèche, le mollusque. Et que font les sèches? Elles jettent de l'encre. Et donc, du coup, là, il a supprimé, non pas, il a supprimé l'encre pour garder simplement la sèche de l'intériorité, c'est-à-dire la sèche de toi-même, de ton esprit. Et donc, avec ce jeu qui est à la fois de métaphore, mais de métaphore tronquée, puisqu'il faudrait lire « aux yeux de lynx qui pénètre le discours, s'oppose, compité, s'oppose l'encre de la sèche de ton intériorité ». Et donc, une traduction pourrait être au lynx de l'esprit s'oppose la sèche du secret, quelque chose comme ça. Mais évidemment, complètement décontenancé, Amelot de Lahousset a fait cette périphrase à ces gens qui épluchent de si près les paroles, c'est-à-dire à ces yeux de lynx qui veulent pénétrer les discours. Couvre ton cœur d'une haie de défiance et de réserve. Alors, il a glissé vers une sorte d'image agreste et agricole des haies, alors qu'il a laissé tomber complètement l'idée de la sèche qui protège son secret parce qu'elle produit de l'encre qui va occulter quel est le secret de l'intériorité. Et du coup, on voit à la fois, évidemment, la convergence entre Gracian et Amelot pour légitimer des conduites qui pouvaient être communément reçues comme étant condamnables. Cette idée de la dissimulation qui dissimule la malice, qui dissimule la méchanceté, qui deviennent légitimes parce qu'elles sont nécessaires dans le monde social tout entier pour Gracian, de la cour pour Amelot. Et en même temps, l'immense différence dans l'écriture, puisque cette écriture ici poussée à son point extrême de concision et de métaphore ne peut être rendue que par le déploiement d'une paraphrase, dont on ne sait pas d'ailleurs si Amelot a vraiment compris quelle était la référence à « Rivias de interioridad ». Alors, comme je vous l'avais dit, il y a une nouvelle traduction qui a été faite par Benito Pellegrin, qui est publié récemment dans les Essais, et qui essaye C'est une entreprise assez curieuse, parce que d'un côté, il recompose l'ordre des maximes, disant que finalement, elle n'était pas inscrite de toute éternité, donc comme si elle pouvait s'organiser dans la logique d'un traité. C'est un peu une opération parallèle à celle qui avait été faite pour Pascal, considérant que les pensées étaient des fragments détachés de ce que Pascal avait pensé comme un discours. Et en même temps, donc, une grande liberté par rapport à toute la tradition textuelle de l'oraculum manual dont j'ai parlé. Et en même temps, un respect qui veut être pour plus près de la traduction de cet espagnol. Et alors là, il choisit « à œil de lynx, sépia et demi ». Ce qui est un peu douteux, mais en fait, qui réintroduit la sépia, c'est-à-dire ce qui est l'équivalent latin de la sèche. En même temps, il aurait la traduction littérale, qui aurait peut-être pu être meilleure, c'était « au lynx de l'esprit, sèche l'animal de dissimulation ». Qui est un peu plus juste, même si toutes ces traductions perdent l'idée de interiorida, c'est-à-dire du secret intérieur, de la défense de l'individu, du moi. C'est difficile de cerner qu'est-ce qui pouvait être derrière le terme comme intériorité, sans tomber dans un anachronisme psychologisant du 19e ou du 20e siècle. Et alors là, la conclusion, c'est évidemment que ici, à peu près rendu, qu'il ne connaisse jamais ton goût, l'autre. Ou bien, de façon à ce que, dans une situation de communication, il puisse le prévenir, le comprendre et donc le manipuler, soit parce qu'il va porter la contradiction qui va faire sortir l'individu de sa réserve, soit parce que par la flatterie, il va l'endormir. Donc c'est cette idée reprise par Elias, c'était au tout début de ce cours, l'idée que les comportements ne sont pas l'expression de l'intériorité, mais doivent être comme des machines, soit des machines à découvrir l'autre, soit des machines à se protéger soi-même. Et donc, du coup, là, ce qui est le goût, qui est la traduction de gusto, qui pourrait être traduit par inclination, disposition, est dans cette tension d'éviter les pièges où pourrait faire tomber la contradiction et la réaction à la contradiction, ou que la flatterie, ou plutôt la réaction à la flatterie, si l'autre savait quelle est l'inclination qui est la tienne. Et c'est donc pour cela qu'il faut la protéger par l'encre de la sèche, qu'il ne connaisse jamais ton goût. J'avais mené une analyse un peu parallèle sur la traduction anglaise de 1685, elle est très décevante, puisque comme finalement ce traducteur traduit Hamelot, et évidemment il ne revient pas au texte original de Gracian. Ce qui reste quand même, c'est par exemple le choix des termes. Il a choisi pour esprit « mind », bon, et il a choisi pour science « knowledge », et il a choisi pour goût « disposition », qui était sans doute plus proche de cette idée des inclinations, de la disposition, on dirait de la disposition de l'habitus dans un langage sociologique contemporain. Mais enfin, voilà, un premier exemple sur cette maxime 98, où l'on est confronté immédiatement avec tous les problèmes que pose la traduction, et en particulier tous les problèmes que pose la traduction de Gracian. Je vais prendre, dans le temps qui reste, d'autres exemples pour montrer ces glissements de signification. Par exemple, la maxime qui est la maxime 120, qui a été traduit par Hamelot comme « s'accommoder au temps », et qui, en fait, a comme premier mot du texte « vivir allo platico », c'est-à-dire « vivre dans la praxis », « vivre dans la pratique », et qui est là, finalement, toute la base du raisonnement d'architecture de Gracian, dans ce sens, c'est d'une grande modernité, puisque c'est l'idée de situation de communication qui impose des pratiques et qui donc justifie des règles de comportement qui peuvent prendre distance par rapport au commandement de la morale chrétienne. Donc il y a bien là une difficulté, puisque évidemment Hamelot n'utilise pas ce terme qui pour nous est fréquent, commun, de pratique, mais qui est essentiel chez Gratian. Alors voilà ce que traduit Hamelot. Je prends ici, que l'homme prudent s'accommode au présent, soit pour le corps ou pour l'esprit, quand même le passé lui semblerait meilleur. Il n'y a que pour les mœurs que cette règle n'est pas à garder, attendu que la vertu doit se pratiquer en tout temps. On ne sait déjà plus ce que c'est que dire la vérité, que tenir sa parole. Si quelques-uns le font, ils passent pour des gens du vieux temps, de sorte que personne ne les imite, bien que chacun les aime. Malheureux siècle où la vertu passe pour étrangère et la malice pour une mode courante. Que le sage vive donc comme il pourra, s'il ne le peut comme il voudrait. Qu'il se tienne content de ce que le sort lui a donné, comme s'il valait mieux que ce qu'il lui a refusé. On voit donc l'idée, là, est l'idée de s'ajuster au temps, doublée par l'idée que le monde est devenu plus mauvais, puisqu'à cette idée de la chute originelle s'ajoutait l'idée du siècle des reins succédant au siècle d'or. Donc les deux données chez Gratian, ici transmises par Hamelot de La Houssaye, existent. Mais vous l'avez entendu, le registre du modèle qui est proposé, il est le registre de la prudence et de la sagesse. Que l'homme prudent s'accommode au présent, que le sage vive donc comme il pourra. C'est-à-dire, effectivement, ici, il y a un lexique, un champ sémantique, qui fait plutôt référence donc à une distance au monde. Ce monde mauvais, on peut prendre distance par rapport à lui, et c'est une forme de la sagesse. Et ceci était la traduction dans le texte de Gratian. Je reprends exactement les mêmes passages. Ce que Hamelot a traduit que l'homme prudent s'accommode au présent était chez Gratian que el cuerdo s'accommode au présent. Alors c'est assez paradoxal puisque finalement Hamelot prend un des mots du titre de Gratian. Mais pour traduire un texte, un mot que Gratian avait mis différent, el cuerdo, la cordura, cuerdo, renvoie à quelque chose qui n'est pas dans l'ordre de une sorte de sagesse. Il renvoie à quelque chose qui est dans l'ordre du jugement, de la capacité à discerner. Et là où Hamelot a dit que le sage vive donc comme il pourra, Gratian, fidèle à son livre précédent, dit « Viva el discreto como puede ». Et quand on revient aux définitions originelles de discreto, c'est ni la discrétion au sens moderne, ce qu'avait justement refusé Courbeville, mais ce n'est pas nécessairement l'homme universel dans toutes les capacités qu'énumérait en 1730 le jésuite Courbeville. C'est l'homme de bon sens, l'homme de jugement qui sait pondérer les choses, qui sait donner sa juste place à chacune d'elles. On voit donc que le registre n'est pas celui d'une morale de la retraite ou du retrait, mais qu'il est celui d'une capacité au discernement, à l'évaluation, au calcul, au jugement, savoir mettre les choses chacune à sa juste place. C'est-à-dire, finalement, on est renvoyé à la fois à la notion à nouveau de pratique, puisque c'est dans l'aphorisme qui s'appelle « vivir allo pratico » qu'on rencontre cela, et on est aussi renvoyé à une distinction introduite là pas seulement par l'obscurité, l'arcanidad, comme disait la Stanosa, du texte, mais qui est introduite par le fait que si vous vous référez au dictionnaire ou au texte ancien, ce qui est l'opposé de discreto, c'est vulgo, avec une première différence qui est une différence en termes de capacité ou d'incapacité à juger, mais qui réintroduit presque immédiatement une différence sociale, dans la mesure où la chaîne sémantique de Vulgo n'est pas simplement la capacité à juger, mais peut-être aussi identifiée avec la populace ou avec les ignorants. Et c'est une réintroduction d'une opposition entre le discreto et sa capacité de jugement, qui n'est pas exclusif de tel ou tel milieu social, mais qui marque une frontière à l'intérieur du monde social. On voit donc qu'il y a un déplacement opéré par Hamelot entre une activité qui est au cœur de la pratique et qui est cette capacité à exercer le juste discernement et à mettre les choses à leur place, à pondérer, et de l'autre côté, une réinterprétation par Hamelot qui est plus liée avec le retrait. Le retrait en soi, sinon le retrait du monde. Et un détail, c'est pour ça qu'il faut être très précis, un détail le montre, quand Hamelot dit « si quelques-uns le font », c'est-à-dire de croire qu'il faut encore tenir parole, dire la vérité, « si quelques-uns le font, ils passent pour des gens du vieux temps ». C'est très, très jolie formule d'ailleurs. Mais en même temps, si vous vous référez au texte espagnol, il n'y a pas quelque chose d'aussi vague que si quelques-uns le font, il y a los varones buenos paraissent être faits au bon temps. Et varones buenos, ça veut dire varon, c'est l'homme masculin, mais c'est aussi l'homme de jugement, l'homme de raison, l'homme de discurso, dit Covarrubias. Et avec l'utilisation de varones, il y avait de nouveau cette série qui est cuerdo, varon, discreto, et que Hamelot rend par prudent quelques-uns et sages. Et on voit qu'il y a là une série aussi d'écarts tout à fait importants. Quant à la traduction anglaise, elle est restée dans le contexte, évidemment, de Hamelot avec « prudent man »,« wise man », l'homme sage, « and if any do », si quelques-uns le font. Deuxième exemple, qui là est un exemple sur un changement, non pas de difficulté intrinsèque de traduire un langage, on pourrait dire baroque, si on veut aller vite, qui est celui de Gracian, un langage d'arcane, un langage d'oracle, mais qui est lié à un rechangement de registre d'expérience, en quelque sorte. La capacité au jugement opposée au retrait de la sagesse. Je vais terminer avec trois autres exemples, peut-être plus brefs. C'est l'aphorisme 291 qui a pour titre en français « Savoir-faire une tentative ». Et évidemment, d'entrée de jeu, bon, c'est la traduction de « saber hacer la tentativa », mais immédiatement, le problème naît parce que la traduction n'a aucun sens. « Tentativa » dans le sens de Gracian et du siècle d'or, ça veut dire « savoir sonder ». Donc sonder les mers, mais aussi sonder les autres. Donc faire la tentative ne porte aucun sens finalement. La vraie traduction, et c'est celle qu'a repris donc Pellegrin, savoir sonder. Parce que et alors du coup, le texte de Hamelot est le suivant, que l'adresse de l'homme judicieux contrepèse la retenue de l'homme fin. Il faut un grand jugement pour mesurer celui d'autrui. Il vaut bien mieux connaître le caractère des esprits que la vertu des herbes et des pierres. C'est là un des plus grands secrets de la vie. L'on connaît les métaux au son et les personnes au parler. L'intégrité se reconnaît aux paroles, mais encore plus aux effets. C'est ici qu'il est besoin de beaucoup de pénétration, circonspection et précaution. Et le point intéressant ici, c'est que Hamelot a suivi le registre du jugement et pas celui de la sagesse, et il a traduit littéralement et adéquatement que la attention del juicioso, grand juicio, et donc il suit cet élément. Là, en revanche, ce qui est le plus complexe, c'est la dernière phrase. c'est-à-dire pénétration, circonspection et précaution, parce qu'elle correspond à quatre expressions de Gratian, et donc il en laisse tomber une, puisqu'il ne traduit que par trois mots. Et les quatre expressions montrent, évidemment, dans un sens, la limite de mon exercice de comparaison avec les dictionnaires, puisque dans trois des quatre cas, on ne trouve pas dans le Covarrubias le terme qu'emploie Gratian, qui peut-être soit un usage nouveau, soit quasiment un néologisme. Puisque Gratian parle à la fin, pour ce dont il est nécessaire, a qui es menester, qu'est-ce qui est nécessaire? D'abord, el extravagante reparo. Et ici, le sens premier de reparo, c'est le remède. Et extravagante, non pas forcément au sens d'extravagant, mais un remède hors de l'ordinaire, une capacité qui dépasse le normal. Ensuite, ce qui est nécessaire, la observation profunda, évidemment, qui peut être là traduit plus ou moins adéquatement par la pénétration. Ensuite, la subtile nota, circonspection. Mais évidemment, le terme de nota pourrait renvoyer à nouveau à ce langage métaphorique de l'écrit appliqué aux pratiques du monde social, et une subtilité de l'observation. Alors, est-ce que c'est cela que Hamelot a traduit par pénétration, ou est-ce que c'est cela qu'il a traduit par circonspection? Ce n'est pas très clair. Il a en tous les cas mis ensemble ces deux éléments. Et alors, l'ultime élément, qui est la précaution dans le texte de Hamelot, est la traduction de la ruiciosa crisi. Crisi, dans le terme crisis, dans le vocabulaire de Gratian, ce n'est pas la crise, c'est la capacité de la critique. Et ici, une capacité de la critique qui est appuyée, et c'est la série qui ouvre et ferme son aphorisme. La attention del ruicioso est ici, il termine comme la ruiciosa crisis. Ruicioso, ruiciosa, lié à la capacité du ruicio et donc finalement à la capacité du discreto. Et la ruiciosa crisis est cet art de la critique judicieuse ou appuyée sur le discernement, qui est là, mise à l'état pratique. Ce qui, en tous les cas, restait aussi la différence, c'est que les mots de Gratian sont tous des mots qui vont dans une situation où on observe, où on note, où on applique le remède de protection, où on applique la critique avisée. Alors qu'évidemment, dans le vocabulaire français, toujours, ces mêmes réalités sont en quelque sorte décontextualisées pour être ramenées à des sortes de qualités de l'esprit, la pénétration, la précaution, la circonspection. Je ne voudrais pas pousser trop loin la différence, mais il est clair que une des plus grandes difficultés peut-être de la traduction pour Hamelot, c'était de ne pas saisir ou de ne pas rendre cette définition des termes dans la pratique de la rencontre, qui est celle de Gratian, pour les ramener à des qualités de l'esprit ou de l'âme. Quatrième et avant-dernier exemple, c'est un texte qui a pour titre, c'est la maxime 169, ou l'aphorisme, « Ne point donner dans l'humeur vulgaire ». Et le texte commence de la façon suivante. « C'est un grand homme que celui qui ne donne point d'entrée aux impressions populaires. C'est une leçon de prudence de réfléchir sur soi-même, de connaître son propre penchant et de le prévenir, et d'aller même à l'autre extrémité pour trouver l'équilibre de la raison entre la nature et l'art. La connaissance de soi-même est le commencement de l'amendement. Il y a des monstres d'impertinence qui sont tantôt d'une humeur, tantôt d'une autre, et qui changent de sentiment comme d'humeur. Ils s'engagent à des choses toutes contraires, se laissant toujours entraîner à l'impétuosité de ce débordement civil qui ne corrompt pas seulement la volonté, mais encore la connaissance et le jugement. Il y a donc ici il y a le renvoi à cette question de se connaître soi-même et donc de connaître son inclination pour dissimuler, et de l'autre côté, à partir de cette connaissance de soi-même, de composer une attitude qui doit empêcher à la fois de se montrer dans sa disposition et d'autre part, comme conséquence, de donner prise sur soi à l'autre. Ça, c'est l'architecture du texte, ne point donner dans l'humeur vulgaire. Et effectivement, Hamelot, ici, a assez bien suivi le texte de Gratian qui explique que se bien connaître, c'est connaître sa propre disposition et éventuellement, pour se corriger, affecter une disposition ou s'entraîner à avoir une disposition commune, au contraire. Ce qu'il appelle trouver entre el natural y el arte, entre ce que l'on est et puis cette composition de soi, el fiel de la sindéresis. Très belle expression, mais la sindéresis, c'est à nouveau le jugement droit, la capacité à penser avec lucidité. Et fiel, c'était le fléau de la balance, donc que la balance soit exactement bien équilibrée entre le naturel que l'on a et, en le connaissant, l'art que l'on prend pour le contrôler et pour l'occulter. Donc là, les éléments ont été traduits. Ce qui était plus problématique, c'était évidemment la fin de cet aphorisme dans l'idée de la impétuosité du débordement civil. Débordement civil était sans doute une de ces formules que le jésuite Courbeville trouvait un peu obscure pour les lecteurs. Et c'était la traduction de la destemplenza civile, ce qui renvoyait évidemment à cette civile dans le monde. Mais ce qui était perdu dans la traduction, c'est que destemplenza a le sens de... un sens qui est en rapport avec l'harmonie, avec l'accord. Et dans la langue, destemplarse, ça voulait dire perdre l'harmonie de la raison, mais ça voulait dire aussi une harmonie désaccordée pour les cordes ou les voix des instruments. Et donc, cette impétuosité est pensée à travers destemplanza par Gratian comme la perte de l'accord, mais d'un accord d'harmonie musicale. Et évidemment, l'impétuosité de ce débordement civil amenait peut-être une autre image, l'impétuosité des fleuves qui débordent leurs rives et leurs berges. Une difficulté, on le voit, de rentrer dans les résonances que peuvent avoir des mots dans une langue et que la traduction ne peut que perdre. En revanche, il y a un véritable contresens, c'est la première phrase, « C'est un grand homme que celui qui ne donne point d'entrée aux impressions populaires, parce que l'expression c'est « peregrinas impressiones », et « peregrinas » ne veut pas dire « populaire », mais veut dire « étrangère », »,« extérieure ». Cela voulait dire, on revient à l'encre de la sèche et aux yeux de lynx du discours, cela voulait dire de ne pas se laisser pénétrer par quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire par exemple par le regard ou le jugement de l'autre, mais de composer son attitude entre le naturel qui peut être dangereux et l'art qui doit le contrôler, de façon à ce qu'on ne tombe jamais dans l'impétuosité ou la destemplenza, c'est-à-dire de se rendre vulnérable par une attitude qui va ouvrir à l'autre et qui va aussi détruire votre propre jugement. Donc on voit aussi ici cette question des registres de langue, des traductions de termes qui peuvent être prises dans un mauvais sens, la difficulté de rendre des résonances de langue, même si la traduction est fidèle du point de vue du sens, et puis aussi que la spécificité d'une écriture, el fiel de la sindéresis, une expression que Hamelot ne peut pas traduire, donc il reste sur l'équilibre de la raison entre la nature et l'art, puisque fiel de la sindéresis, c'est à nouveau le même type de formule. C'est-à-dire fiel, ça renvoie à une réalité matérielle, c'est le fléau de la balance, et sindéresis, ça renvoie, avec une certaine recherche et d'hellénisme, ça renvoie à la capacité au jugement droit et à la lucidité. Alors je termine avec le dernier exemple, qui est un exemple qui est l'aphorisme 273, et qui, je le prends puisque ça fait une sorte de conclusion sur la totalité de ces observations sur Gracian, Hamelot. Le titre choisi par Hamelot, c'est « Connaître à fond le caractère de ceux avec qui l'on traite ». L'effet est bientôt connu quand on connaît la cause. On le connaît particulièrement en elle et puis en son motif. Le mélancolique augure toujours des malheurs, le médisant des fautes. Tout le pire s'offre toujours à leur imagination, et comme ils ne voient point le bien présent, ils annoncent le mal qui pourrait arriver. L'homme prévenu de passion parle toujours un langage différent de ce que sont les choses. La passion parle en lui et non pas la raison. Chacun juge selon son caprice ou son humeur, et pas un selon la vérité. Apprends donc à déchiffrer un faux semblant et à épeler les caractères du cœur. Étudie-toi à connaître celui qui rit toujours sans raison et celui qui ne rit jamais à faux. Défie-toi d'un grand questionneur comme d'un imprudent ou d'un espion. N'attends presque rien de bon de ceux qui ont quelques défauts naturels au corps, car ils ont coutume de se venger de la nature en lui faisant aussi peu d'honneur qu'elle leur en a fait. D'ordinaire, la sottise est à proportion de la beauté. Le texte qui est là traduit, qui est cette maxime 273, est assez bien traduit à une exception près, c'est-à-dire le fait qu'il n'a pas bien compris Hamelot la question du rire qui était liée à l'utilisation d'un jeu de mots par Gracian, puisque c'est connaît celui qui toujours rit falto, c'est-à-dire qui là rit de manière. La distinction, elle est entre celui qui rit à propos et celui qui rit mal à propos. Et c'était ça qui était sur le jeu entre falto et falso. Il a commis un contresens, puisqu'il s'agit de étudie-toi à connaître celui qui rit toujours sans raison et celui qui ne rit jamais à faux. Ce n'est pas le sens que voulait rendre le texte de Gracian, mais dans le sens que... je reviendrai là, c'est moi-même qui suis débordé par Gracian. Mais je reviens donc à un problème que je voulais traiter avec cette ultime maxime et qui était la métaphore de la textualisation des comportements. Puisque ici, Hamelot l'a bien saisi et il a traduit l'idée de « sache déchiffrer un semblant, un faux semblant » et « délétrear », ça veut dire « épeler lettre à lettre », commencer à lire en prononçant lettre à lettre comme A, B, C, sans joindre les parties. Et il l'a traduit avec cette idée d'épeler les caractères du cœur et finalement de pouvoir déchiffrer « los señales », qu'il a traduit par... ça, il l'a laissé de côté, mais c'est l'idée de déchiffrer correctement les signes, les indices, les traces d'une chose absente. Et donc, on entrait là dans ce registre de la métaphorisation par le rapport à l'écriture de la totalité des comportements, et donc de la même manière qu'on doit lire des textes, on doit lire les hommes avec ces techniques de l'épellation, du déchiffrement et de l'interprétation des signes. Et je pense que c'est un point important et intéressant dans la mesure où effectivement que cette idée-là, on va terminer avec ça, cette idée-là de la métaphore du livre ou de la lecture appliquée hors le monde de l'écrit et hors le monde du déchiffrement des textes est à la fois fondatrice, puisqu'elle pourra amener jusqu'à aujourd'hui tous les sens métaphoriques de lire, puisqu'on peut lire un tableau, on peut lire une ville, on peut lire les cœurs, on peut lire la mémoire. Et donc, elle a une capacité ou un potentiel de compréhension puissant avec cette idée qu'on peut étendre la métaphore du texte au-delà de l'écrit et la métaphore du lire au-delà du déchiffrement de mots, de lettres, de mots et de discours. En même temps, elle introduit évidemment le risque qui est celui de l'imposition d'une logique qui serait la logique du discours, qui est la logique d'une raison scolastique, disait Bourdieu, que sur des objets, ou objets au sens matériel, ou des comportements, ou des conduites, dont les logiques de production et d'interprétation ne sont pas soumises aux règles de la logique du discours ou de la logique de l'écrit. Et je crois que nous avons hérité fortement de cette tension entre ces deux sens du mot lire. Il y a un très beau texte intéressant de Paulo Freire qui s'appelle L'importance de l'acte de lire, A importanza do atto di ler, et qui joue sur ces deux sens, c'est-à-dire le sens qui pour nous est le plus immédiat, en particulier dans cette perspective d'histoire de la culture écrite. Lire, c'est lire des lettres, des mots, des phrases et des discours sur des objets écrits. Et puis, d'autre part, lire, ça peut être lire avant même la capacité à la lecture comme lecture de discours écrit, la capacité au déchiffrement du monde, de la nature, des êtres, des sentiments, ce qu'il appelle dans son texte « palabra mundo », une parole monde, qui est l'objet donc de ce déchiffrement. Et je pense que cette tension, cette ambivalence qu'on peut enraciner comme ça dans cette écriture de Graciane, elle a cette double projection dans le futur, d'un côté de démultiplier les possibilités de la métaphore du texte et de la lecture, et de l'autre côté, de présenter le risque de la réduction de la logique pratique, du sens pratique, de logique qui produise ou suggère du déchiffrement, mais selon des dispositifs, des trajectoires, des procédures qui ne sont pas celles de l'écrit, de les rabattre ou de les absorber ou de les englober dans une perspective logocentrique ou une perspective qui, finalement, détruit la spécificité. Je crois que c'est un élément de réflexion qui est donné par le texte de Graciane, assez curieusement et de manière inattendue, mais qui en même temps peut porter au-delà de l'analyse détaillée que j'ai essayé de faire, peut porter évidemment une leçon de plus grande ampleur. Bien, on peut en rester là. Je vous souhaite d'heureuses fêtes de Noël et de fin d'année. Et on se retrouve le 10 janvier, si vous voulez. Thank you.